pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger.
Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis très heureuse de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui Éric Vuillard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors, je vous reçois aujourd'hui pour votre dernier livre. Il s'intitule « Les orphelins » et il est paru aux éditions Actes Sud. Et son sous-titre, c'est « Une histoire de Billy the Kid ». Alors, Billy the Kid, c'est un objet assez inattendu pour un auteur de littérature française en s'inscrivant dans les pas de cet as de la gâchette devenue légende de western. Votre écriture se plonge dans la culture américaine, elle nous déplace dans l'histoire et dans la géographie. Nous voici au 19e siècle, nous voici aux États-Unis, dont vous réécrivez l'histoire à partir de la figure de Billy the Kid, figure héroïque et pitoyable de l'histoire des États-Unis, comme vous l'écrivez vous-même. Et ce paradoxe d'une légende faite d'admiration et de réprobation a dû aimanter votre geste d'écrivain, moins pour trancher entre l'admiration et la condamnation que pour donner consistance à ce que la légende ne permet pas de saisir, sous le spectacle la vie sensible, une vie fugace et bannie, mais une vie gorgée d'affects auquel l'écriture peut redonner vie, une vie démunie, marquée par un extrême dénuement, qu'on entend même dans le nom du Kid. Hein, vous faites sentir que le Kid, c'est ce pauvre surnom qui est offert aux enfants qui n'ont rien d'autre à se mettre. Mais en décrivant votre texte comme je suis en train de le faire, je laisse peut-être imaginer qu'il s'agit d'un récit biographique, un simple récit romanesque pour donner chair et sentiment à ce pauvre gosse qui était Billy the Kid. Or, il me semble que votre texte fait bien plus que cela, que c'est un texte méditatif qui interroge la possibilité même d'écrire cette vie, qui embrasse les réécritures dont elle a déjà fait l'objet et qui aperçoit à travers la figure de Billy the Kid une histoire du capitalisme dans laquelle the Kid a été saisi et comme piégé. Il y a donc une sorte de montée en réflexion, une montée en généralité qu'on pouvait apercevoir au fond dès le titre parce que c'est les orphelins au pluriel et non pas l'orphelin qui était en effet Billy the Kid. Et je crois que les orphelins au pluriel, c'est un peu plus que la bande d'orphelins qui était plus ou moins tous les voyous autour de Billy the Kid. Les orphelins, je crois, apercevoir une métaphore et c'est par cette métaphore que je voudrais commencer en vous demandant de quoi sont orphelins les orphelins qui font le titre de cet ouvrage ?
Alors, merci pour votre présentation. Alors, comment dire, un titre, c'est toujours quelque chose un petit peu particulier, puisque dans un livre de prose, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle la poésie, ouais. C'est-à-dire qu'un titre, on peut bien faire des listes, on peut tenter de s'en approcher petit à petit, mais en réalité, ça vient d'un coup. C'est une cristallisation, au fond, un peu brutale, de significations qui, pour une part, peuvent être contradictoires, ambivalentes ou plurielles, mais qui, en tout cas, se trouvent comme être prises dans une sorte de petit caillou, si je puis
c'est
dire.
C'est ça.
Voilà. Donc, alors, c'est toujours tout ça pour dire que c'est difficile à commenter, mais pour en dire quelque chose dans la veine un petit peu de ce que vous avez développé, c'est sans doute lié à deux choses, au fait d'être abandonné, c'est-à-dire qu'il y a des données d'abord biographiques, ces gens-là sont souvent soit orphelins réellement, soit ils sont partis de chez eux très tôt, ce qui revient au fond même, à 13 ans, 12 ans, 14 ans pour aller travailler, soit ils sont orphelins parce que de toute façon, leur grande misère, le fait qu'ils partent très loin de chez eux et qu'ils se retrouvent ensuite seuls, précaires et pauvres, finalement les confinent à une situation sociale qui ressemble à ce qu'on appelle strictement être orphelin. Et puis aussi parce que il y a sans doute une donnée chez eux qui appartient ensuite à d'autres coordonnées de leur existence, c'est-à-dire aux affrontements dans lesquels ils se trouveront pris, notamment avec des bandes rivales qui sont dirigées par des gens qui parfois peuvent vivre très loin au fond du champ de bataille, bon, c'est-à-dire à la capitale Santa Fe et avoir des titres importants, si bien qu'ils sont aussi, de manière comme petit à petit, entraînés à se désinscrire, poussés à se désinscrire de la vie sociale. Au lieu de devenir ouvriers agricoles, garçons vachés strictement, ils le sont aussi. Hein. On le voit sur la couverture du livre, qui est l'une des photos aussi de l'intérieur du livre, une photo de Jess Evans, ouais, et d'une de ses compagnes dont on ignore le nom. Le revolver que tient la jeune fille, c'est, si je puis dire, leur instrument, leur outil. Or, c'est un outil qui a franchi de tous les autres, qui a franchi du travail manuel. Si bien, voilà, il y a une sorte de désaffiliation chez eux, une manière d'être désinscrit par la force des choses, qui va avoir évidemment des conséquences à la fois sur les, je sais pas comment dire, sur les rudiments idéologiques qui seront les leurs, sur leur vie. On peut pas du tout parler d'engagement, ils n'ont pas de parti pris politique, mais enfin, ça les amène tout de même à des conséquences graves, puisque la plupart d'entre eux mourront pauvres et de morts violentes, jeunes.
Et très jeunes, voilà. très jeunes. Hein. On oublie que Billy the Kid est mort à 21 ans.
Tout à fait.
Donc cette extrême jeunesse que d'ailleurs les films ne restituent pas forcément, parce que les acteurs sont souvent plus âgés que l'âge auquel est mort en réalité Billy the Kid. Pour continuer sur cette histoire de la métaphore des orphelins, où vous entendez en effet une dimension un petit peu plus large que simplement l'orphelinat biologique, il y a une autre piste encore qui vient se superposer à celle que vous avez proposée, c'est dans l'emploi que vous faites vous-même du mot orphelin pour parler de nous tous aussi, le lectorat contemporain. Alors je me déplace un petit peu, je change d'objet, je me déplace dans l'introduction au manifeste du Parti communiste que vous avez signé aux éditions sociales, où je ne sais pas si vous vous souvenez avoir écrit dans cette préface que vous avez signée, « Nous qui sommes aujourd'hui orphelins, perdus entre deux moments de l'histoire, noyés dans les eaux glacées du calcul égoïste, nous qui désirons avant tout que l'on nous décrive le monde tel qu'il est. » Vous voyez que ce mot orphelin est venu là, oui, pour parler de nous tous, de nous maintenant, et je ne sais pas si dans la cristallisation dont vous parliez tout à l'heure, il y a aussi cette idée-là que nous sommes tous ces orphelins à
qui... C'est-à-dire qu'au fond, d'abord, ça s'enracine dans une histoire littéraire ancienne. Pour moi, en tout cas, mais je pense pour beaucoup de monde. Et puis, on pourrait parcourir l'histoire de la littérature en l'indexant à ce nom. Pour moi, ça commence, je crois, à l'école, en lisant Villon, qui est un orphelin, donc, dont la vie, au fond, ressemble en partie à celle de Billy, puisqu'il a été lui-même, il a tué quelqu'un, il a été donc criminel, condamné, c'était un voleur, c'était un homme errant aussi. Bon. Bon, la différence, c'est qu'il a passé des diplômes tout de même, c'était il avait une culture savante, bon, donc il y a des éléments. Mais bon, Billy est aussi un garçon alphabétisé, Mais en tout cas, la littérature commence pour moi, enfant, et je pense pour beaucoup d'enfants, par les textes d'un homme qui est, ce qu'on oublie au fond, un délinquant, voire un criminel, et qui s'adresse à nous d'une manière, je ne sais pas comment dire, tout à fait intime, tout à fait nouvelle. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout la forme guindée qu'avait la littérature jusqu'alors, ou qu'elle aura même encore après. Vous voyez, c'est très loin de Boileau, même de Marot ou d'autres. Il y a une sorte de franchise chez Villon. Quand il parle de lui, même si la formule ne veut pas dire la même chose à l'époque, donc « pauvre petit écolier », vous voyez, il y a quelque chose de familier qui nous touche et qui introduit, qui fait au fond que c'est comme si la littérature commençait par les orphelins, avec eux, et des orphelins d'un certain genre, puisque la balade des pendus, qui est son poème le plus connu, eh bien, ce sont des morts condamnés pour crime, vol, je ne sais quoi, qui s'adressent à nous et qui, pour la première fois, nous parlent avec cette sorte de tutoiement, mais universel, puisque frères humains embrassent tout le monde, au-delà même de ce qu'était à l'époque le catholicisme universalisant. Donc, il y a ce premier point. Et puis, alors, pour en venir à ce que vous disiez, c'est que tout ça parcourt l'histoire littéraire. Bon, je ne peux pas en faire l'inventaire, mais passe par le Lazarillo de Tormes, par exemple, le grand livre espagnol, le début du roman picaresque, où là encore, une sorte de pauvre orphelin parcourt la vie comme il le peut, maladroitement, passe d'emploi en emploi sous-payé, etc., jusqu'à Cosette et jusqu'à tous les romans de Dickens, au fond. Et on le voit bien, alors pour prendre Dickens, justement, et même Hugo, même Cosette, on est là à un moment où, bien sûr, là, il y a une structure idéologique héritée de la Révolution française, mais au fond, ce qui se trouve dans les Misérables, l'orientation d'opinion de Victor Hugo est très loin des mouvements socialistes de son temps. C'est quelque chose qui est peut-être qui nous ressemble dans un certain sens. Il est Hugo recourt à la poésie, aux données immédiates, je peux dire, de la littérature pour essayer de formuler quelque chose, son indignation bourgeoise peut-être, mais enfin réelle, à l'égard d'une situation qui lui semble à certains égards devoir, enfin il y a de l'espoir pour lui, mais qui est quand même sans issue. issue. Si la seule issue, c'est celle de Jean Valjean, on le voit bien, il est rare qu'un bagnard ancien puisse, par l'anonymat et le miracle de je ne sais pas quelle rencontre, etc., et de je ne sais quel talent ensuite...
Oui, c'est devenir, des coordonnées très exceptionnelles.
Voilà, qui ne se produisent jamais dans la réalité. Donc, on voit bien que lui aussi doit être orphelin de quelque chose. D'ailleurs, ça lui vient d'une impression personnelle, puisque, si je me souviens bien, tout ça vient d'une première visite faite à Bicêtre avec David d'Angers pour assister au ferment des bagnards. Et assistant à ça, je pense que pour la première fois, Hugo est saisi, attrapé par quelque chose qui le dépasse. Bon, alors, pour en venir à nous, on est dans un moment effectivement assez singulier, puisque on est... Nous sommes les héritiers de plusieurs révolutions, plusieurs élans idéologiques très puissants, celui qui est complexe, hein, mais de la Révolution française principalement, et ensuite des révolutions communistes. Mais on est dans un moment où tout s'est... Le communisme réel s'est éteint et l'élan de la Révolution française lui-même, c'est-à-dire les droits qui avaient été acquis, les droits de l'homme, ce genre de choses, est en voie de régression à peu près partout, y compris chez nous, constamment, depuis à peu près 40 ou 50 ans, c'est-à-dire depuis en gros la chute du mur de Berlin. Si bien que, voilà, on se trouve en effet orphelin de quelque chose, soit à attendre une nouvelle formulation idéologique qui viendrait tout à coup, soit à se retourner vers le passé un peu... comment dire, avec une sorte de sentiment un peu coupable, puisque nous avions pris jusqu'ici l'habitude de trouver de nouvelles formules, et voici qu'on est soudain en train de nous dépouiller des précédentes.
Mmh. Alors, par rapport à ces révolutions dont nous sommes en quelque sorte orphelins, ou en tout cas dont l'élan semble avoir s'être essoufflé, où on en a été finalement privé par 40 ans de néolibéralisme, pourquoi pas 50 ans, que peut la littérature, vous, en vous emparant de ces questions-là, quand même de manière récurrente, en fait, vous avez vraiment un sillon littéraire assez obstiné du côté de cette revitalisation de la question révolutionnaire, de l'élan révolutionnaire. Je pense notamment à 14 juillet, hein, où vous retracez la folle journée, si l'on peut dire, telle qu'elle a été vécue par la foule des humbles qui se sont emparés de la Bastille en 14 juillet 1789. Voilà, vous travaillez souvent du côté de ces petites gens, les humbles, les démunis, et de la manière dont ils peuvent donner un élan à l'histoire tout à coup, tout à fait spectaculaire. Là, vous vous intéressez à la petite délinquance, mais dans la petite délinquance de Billy the Kid, vous voyez au fond, pourquoi pas, un potentiel révolutionnaire. Il y a tout un passage où vous racontez comment Jesse Evans pourrait, après tout, prendre le métro à un moment, piller les banques, tuer les directeurs, tuer les présidents, et il y a une sorte d'élan révolutionnaire potentiellement dans ces personnages que vous décrivez. Donc, je voudrais comprendre quelle mission vous prêtez à la littérature, celle que vous pratiquez dans cette question-là que vous venez d'aborder des révolutions dont nous sommes aujourd'hui orphelins. Que peut la littérature? Qu'est-ce qu'elle remet en mouvement?
Alors, le premier point dans votre introduction, je vois vous disiez quelque chose comme qu'il était curieux que je m'intéresse à l'histoire américaine,
ouais,
ou à l'Amérique.
Ouais.
Alors, c'est vrai, parce que c'est pas commun en réalité, mais je suis étonné que ce ne soit pas. C'est-à-dire,
ouais,
il est curieux qu'on ne s'intéresse pas davantage à ce qui est d'abord la figure centrale du pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme si nous étions les vassaux ou les serviteurs d'un régime ou d'un système dont nous ne voudrions rien savoir, quoi qu'il soit sans cesse en train de nous alimenter à travers notamment le cinéma et plein d'autres choses, l'alimentation, le reste,
oui,
de
oui,
leur culture, leur industrie, etc. Donc c'est une situation étrange de cécité relative. C'est comme si on était sans cesse en train de citer les États-Unis sans vouloir les étudier, sans vouloir réellement les comprendre. On en parle pourtant sans cesse là, avec l'actualité, mais
ouais,
on ne devrait pas écrire sur eux.
Ouais.
D'ailleurs, c'est si vrai que les Américains n'aiment pas qu'on écrive sur eux.
Ouais.
Et puis, on sait bien que quand les Américains, je ne veux pas dire tous les Américains,
non,
évidemment,
non, mais oui,
si vous voulez, on le voit avec le cinéma. Quand un film a du succès, un film européen, c'est un remake qui est fait. Il faut,
ouais,
que ce soit un film américain en Amérique. Alors, il y a des raisons d'argent à tout ça, mais il y a aussi des raisons profondément culturelles. Alors, je crois qu'au contraire, il est tout à fait naturel d'essayer de comprendre ce qui est central. Il n'y a aucune raison. Alors, la première, évidemment, qui nous en empêche, c'est qu'il y a toujours une forme d'intimidation. On le sait bien, qui que l'on soit, si on se trouve être invité, on peut ne pas être timide, avoir des opinions politiques qui soient telles ou telles. Quand on est invité dans des circonstances solennelles et qu'on n'est pas chez soi, qu'on n'a pas l'habitude de ces circonstances, on éprouve tous des sortes de pincements, de gêne, etc. On sait bien, parce qu'on ne connaît pas les codes, enfin ce genre de choses élémentaires que tout le monde a pu vivre. Eh bien, je pense qu'on a le même genre de relation avec le pouvoir, l'Amérique, c'est-à-dire ouais. Écrire sur le pouvoir. C'est pas pour rien, sans doute, que Balzac passait ses soirées dans les salons. C'était une manière de s'habituer, de comprendre. Alors, c'était aussi une manière de se protéger, sans doute, à l'époque. Mais on voit bien qu'il y puisait des informations, puisqu'il ne cesse de faire des portraits d'une ironie féroce, très juste, etc., sur les gens de pouvoir, les arrivistes qui viennent traîner dans les salons, enfin, tout ce milieu, à l'époque, qui dirigeait Paris. C'est à ce titre qu'il est un entomologiste de Paris, ouais. Ou le secrétaire, comme il le dit, de la société. Alors, aujourd'hui, évidemment, on n'a pas la possibilité, j'ai pas la possibilité, moi, d'aller... à Marais-Lago, me promener, faire du jeu au golf.
Mais, avec Donald.
Voilà. Mais le passé est une ressource. C'est-à-dire, ouais. En revanche, il existe des archives, il existe des documents, des photographies, et on peut s'emparer à travers le passé de quelque chose qui ne ressemble pas tout à fait à aujourd'hui, mais qui, enfin, est tout de même l'origine de ce pouvoir-là qui, aujourd'hui, nous domine. Donc, c'est la première chose, c'est que l'Amérique, au contraire, devrait requérir notre attention davantage, au fond. Parfois, on sait que des écrivains français essayent d'écrire des romans américains, nous disent-ils. Mais je crois qu'au contraire, on devrait écrire des romans sur l'Amérique. Enfin, ouais. On devrait essayer de se concentrer. Pour en donner un dernier exemple, cette relation d'intimidation, au fond, ou même de peur, parfois, pourquoi pas, elle est normale. Quand Saint-Simon écrit sur le roi de France, il ne va pas lire à Louis XIV ce qu'il écrit sur lui. Parce que quand il écrit, je crois, Louis XIV était au-dessous du médiocre, évidemment, Louis XIV n'aurait pas apprécié. C'était pourtant peut-être vrai, après tout. Donc, toute sa description de la cour, on le voit, il ne la publie pas pour des raisons liées à sa position d'aristocrate, mais aussi parce que ça constituerait au fond un danger et qu'un valet, fût-il duc ou marquis ou comte, ne peut pas écrire sur les autres et sur le roi de France en toute impunité. Donc c'est au fond un peu pareil avec les États-Unis. On se fait sinon rectifier. Voilà.
Ouais.
Alors ça c'est le premier point. Et puis l'autre chose, c'est que... au fond, ce qui est intéressant, il me semble, pour la littérature, obstinément, c'est de s'obstiner sur ce qui, pour son temps, en fait, son époque, détermine l'époque de façon centrale. C'est-à-dire, on reproche parfois à un écrivain, justement, quand il s'attaque trop fréquemment au pouvoir, de le faire. Mais si on réfléchit bien, La recherche du temps perdu est une immense fresque qui porte pas seulement sur les amours de Marcel, mais sur cette lutte qui commence à être, si je puis dire, documenté par Balzac, entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Le bal des têtes à la fin, c'est précisément une espèce de réconciliation finale, de victoire en partie de la bourgeoisie. Et sans ça, sans cette armature qui structure tout le livre, bon, il resterait quelques histoires d'amour un peu vagues. On ne pourrait plus parler de cette recherche du temps perdu. On ne pourrait plus, en tout cas, la lire de la même manière. C'est donc un livre aussi sur le pouvoir. Le snobisme, auquel Proust était lui-même tout à fait sujet, est une manière pour lui aussi d'analyser le pouvoir, de le connaître, de l'approcher. Ouais, donc, voilà, je crois que pour notre époque, le point central, on pourrait le formuler de plusieurs manières, c'est une concentration tout à fait inédite des richesses et du pouvoir, à mon avis, sans précédent, en tout cas, et puis dans une forme évidemment nouvelle, avec un degré d'inégalité très grand, et que ni l'alphabétisation des masses, ni les progrès techniques, au fond, ils vont pas rempart à ça, comme on l'a longtemps cru. Au contraire, on peut même penser à un certain degré qu'ils, en tout cas pour le progrès technique, qu'ils l'accélèrent. Donc, on serait mal avisé en tant qu'écrivain de faire le contraire de Jean-Jacques Rousseau et de s'en tenir à des romans distractifs ou essayer de regarder ailleurs, alors que ce point central peut être regardé justement de maintes façons pour essayer tout simplement de le comprendre davantage. Alors, ça, c'est le premier point que je notais. Et puis, l'autre, c'est qu'il existe, au fond, il existe deux mouvements à l'histoire récente, moderne. Un premier mouvement qui est un mouvement... on peut dire d'assujettissement par ce qu'on appelle la révolution industrielle, où de nouvelles fortunes arrivent, s'enrichissent, c'est ce qu'on voit dans Balzac et donc dans Proust et dans Zola, et vont petit à petit imposer pas seulement leur puissance, mais leur marque, leur manière de vivre à toute la société, la forme du salariat par exemple, mais pas seulement, tous les objets qui sont ici dans cette pièce et partout sont produits par eux. La plupart d'entre nous touchons des salaires, moi-même les droits d'auteur, c'est une entreprise qui me les verse. Donc on voit bien que cette forme-là, cette forme sociale, nous pénètre, nous domine, on boit de l'eau, bon, elle peut venir du robinet, mais malgré tout, elle est filtrée par ailleurs. Enfin, vous voyez, tout ça, jusqu'à ce qu'on ingère, est produit par un seul et même système qui donc sature entièrement la vie sociale et qui du coup se fait oublier. Et le second mouvement est évidemment un mouvement, au contraire, d'émancipation, qui a eu plusieurs étapes. À mon avis, la première étant à la fois le nouage de l'imprimerie et du protestantisme qui a permis l'alphabétisation de masse et un rapport au pouvoir, au pouvoir central, en tout cas critique, une possibilité aussi pour chaque individu de lire les textes, en l'occurrence à l'époque la Bible, de s'en faire sa propre opinion, d'en formuler son interprétation, donc une forme de liberté nouvelle. Et puis ensuite, pour faire vite, disons, la Révolution française et les révolutions qui ont suivi et qui, elles, visent à un affranchissement beaucoup plus grand et plus large et collectif. Et on peut dire que ces deux voies, c'est-à-dire celle du progrès d'abord des manufactures puis de l'industrie, d'un côté, cette nouvelle forme de richesse et de pouvoir, et d'un autre, au contraire, ces velléités émancipatrices, d'une certaine façon, à l'inverse de ce qu'on a pu croire parfois, s'affrontent, en fait, au long de l'histoire et jusqu'à nous. Alors, le dernier point, enfin le point en rapport avec mon livre, vous évoquez la liberté donc du Kid ou de Jesse Vance dans un passage du livre. C'est que ce qui m'a intéressé, c'est que dans cette histoire-là, on peut dire que ce qu'on appelle les cow-boys, les garçons vachés, ces bandes de petits criminels en tout cas là, qui peuplent les westerns, ont un rôle bizarre puisque quand on les regarde, que ce soit la légende ou la réalité, d'ailleurs, peu importe, je veux dire, et dans la légende et dans la réalité, il y a indéniablement une forme de liberté qui est liée au revolver, c'est-à-dire ils s'affranchissent du travail manuel, mais c'est une liberté sans objet, c'est une liberté vide, on pourrait dire presque, d'un point de vue hegelien, une liberté pure. Elle n'a pas de détermination, ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de projet. Alors, c'est leur beauté, si on veut, c'est la liberté et rien, d'une certaine manière. Ils sont libres, ce qui signifie travailler le moins possible, avoir une vie sexuelle beaucoup plus débridée qu'à l'époque, boire, jouer aux cartes, chanter, danser, enfin bon, rien foutre, ce qui est un projet en soi, évidemment, qui pourrait séduire beaucoup de monde, qui a des aspects très plaisants. Bon. Mais, par ailleurs, leur problème, c'est que d'autres forces qui les dirigent et qui les emploient, elles, ont des projets concrets, réels, avec des formes idéologiques structurées. Et de fait, la liberté de ces petits délinquants est une liberté vide et vaine qui les amène tous à la mort. Donc ça m'a intéressé, au sein de cette histoire de l'émancipation, d'essayer de regarder de plus près ce qui est au cœur du mythe américain, enfin l'un des cœurs palpitants du mythe américain, l'idée que du self-made man, c'est-à-dire d'individus audacieux, de la concurrence entre eux, du courage, et y compris avec une certaine dose de violence qu'incarnent, entre autres, les garçons vachés, ces petits délinquants, de se rapprocher de ça et d'essayer en les regardant de plus près, en conservant d'eux les éléments concrets de leur vie, c'est-à-dire la précarité, la pauvreté, cette liberté un peu vide que j'évoque, le revolver, la violence, de voir au fond, dans un rapport justement, ils se trouvent comme à la jonction de quelque chose qui pourrait ressembler à de l'émancipation, puisqu'il y a une liberté réelle, au fond, et en même temps, ils sont totalement, en réalité, assujettis, ils participent à la construction des grands monopoles. Alors, pour finir, vous me demandiez ce que la littérature pouvait. En fait, c'est dans l'écriture que ça se joue, sans doute, dans une sorte d'élan. Il y a des... En fait, je me disais, hier, j'étais dans le train, je notais deux, trois choses, et je songeais au début des Misérables. Et je me disais, on lit ce texte, vous savez, la rencontre entre Jean Valjean et Monseigneur Myriel, ouais. et le fameux coup des chandeliers. Ouais. Donc Jean Valjean est logé par ce type qui très gentiment veut mettre des couverts d'argent même à un bagnard. Bon, du coup, dans la nuit, évidemment, il vole les couverts, il se fait rattraper par la maréchaussée qui l'amène. Et à ce moment-là, se passe ce miracle étrange que ce prêtre lui dit « Mais non, non, je lui avais donné, dit-il à la maréchaussée. » Et lui dit « Vous aviez d'ailleurs oublié les chandeliers. » Et à ce moment-là, je me disais, au fond, j'avais noté hier, il y a une sorte de dimension interpellative. C'est-à-dire, au fond, à qui s'adresse Victor Hugo dans ce passage ? Est-ce que vraiment, comme lecteur, on le lit, comme on nous le dit souvent, c'est-à-dire un roman, c'est l'incarnation de personnages, est-ce que vraiment on se prend à ce moment-là pour Jean Valjean ou pour Monseigneur Myriel ? Vous voyez, je crois que ce n'est pas ça qui se passe. On est, en fait, saisi. On ne comprend pas. J'avais noté un truc en me disant, en fait, les chandeliers, c'est comme si, effectivement, à un moment, ils nous étaient donnés, on ne sait pas quoi en faire, on se demande sans doute plusieurs choses en même temps. Est-ce qu'on aurait fait la même chose ? On n'aurait peut-être pas eu cette idée prodigieuse de Monseigneur Myriel. En même temps, c'est un mensonge. Tout ça, du coup, est articulé étrangement et vient nous saisir, nous attraper. Et ce que Hugo appelle ensuite la tempête sous un crâne, d'une certaine façon, c'est sous notre crâne qu'elle est. C'est ça que produit à ce moment-là cette scène. C'est dans l'écriture d'Hugo, pas seulement dans la scène au sens des chandeliers, mais toute la façon qu'il a d'écrire tout ça, de nous le présenter et de nous placer, nous, face à ça, comme ça, comme face au vide, en fait, à quelque chose d'inhabituel. C'est-à-dire, normalement, quand quelqu'un nous a cambriolé, même si on n'est pas pour la propriété, vous voyez, c'est pénible.
Oui, on ne va pas aller lui filer les chandeliers qu'il a oubliés.
On ne va pas lui filer autre chose. Ce n'est pas le premier réflexe, en tout cas, qu'on a. Il y a un côté petit curé chez nous, mais qui ne réagit pas comme Myriel. Ouais. Alors, ensuite, c'est comme si, donc à ce moment-là, en fait, Hugo s'adressait à celui qui, en nous, a des couverts d'argent voilà, et les a perdus. et au fond, ce que peut faire la littérature, c'est peut-être à ce moment-là faire en sorte qu'on ait une sorte de sentiment qui pourrait se formuler par « et comment, en fait, ai-je pu jusqu'à présent tolérer ça ?» etc.
Mais alors là, vous vous inscrivez dans l'héritage hugolien. Évidemment, je comprends ce qu'il a d'inspirant et de très matriciel. En même temps, votre manière d'écrire, votre lieu d'écriture est quand même assez éloigné, je trouve, du très grand surplomb hugolien qui écrit quasiment toujours depuis le cosmos. Enfin, il a cette sorte de hauteur très, très spectaculaire, très cosmique. Alors que votre écriture a toujours quelque chose de l'ordre du tremblement, de l'oscillation, un flottement qui se sait flottant. Votre manière, par exemple, d'hésiter entre le passé simple et le présent dans votre manière de raconter l'histoire de Billy the Kid, hein, dans le même paragraphe, on n'arrête pas de changer, ça tremble un petit peu. Votre manière de mettre en italique tous les adverbes, tous les modalisateurs qui font apparaître l'incertitude quant à la biographie de Billy the Kid. Il était peut-être comme ça, sans doute comme ça, il est né peut-être à tel endroit, mais on n'en sait rien. Vous avez une manière d'écrire très liée à cette sorte de tremblement suspendu qui évoque une sorte de modestie. C'est la modestie de l'enquêteur très soucieux de vérité et qui ne voudrait pas déclarer plus que ce dont on peut être certain. Enquêteur, vous l'êtes un peu, alors, puisque vous êtes allé fouiller dans les archives.
Oui, oui, alors on peut dire que la littérature, c'est toujours un peu une enquête à partir de soi, d'une certaine façon. Ouais. Alors, ce n'est pas que je voulais m'inscrire à tout prix. Enfin,
vous en fais pas reproche, loin de là.
C'est que surtout, d'abord, c'est quelque chose que tout le monde connaît, qui s'est inscrit dans la conscience collective et qui est devenu, justement, pour répondre à la question, que peut la littérature, ça a plu beaucoup, disons. Ouais. Cette forme-là, quel que soit effectivement son surplomb, qui est lié à la position sociale d'Hugo, enfin, qui est d'ailleurs celle d'une grande partie des auteurs du 19e, au fond, dont ils ne sont pas responsables. C'était comme ça, et ils ont, disons, tiré un assez bon parti de cette position
bourgeoise,
etc. Ouais. Bon. C'était donc un exemple pour illustrer ce rapport étrange et immédiat dans lequel la littérature nous place, et qui est au fond une connaissance, elle aussi, une connaissance étrange, qui n'est pas une connaissance au sens de la sociologie ou de l'histoire même, etc., qui est une connaissance d'un autre genre, au fond, qui nous met en cause. Voilà. Et alors, sur le tremblement, l'enquête, alors, c'est sans doute vrai pour tous les livres, mais peut-être un peu plus pour celui-ci, dans la mesure où, Enfin, comment dire, quand je commence à écrire, j'ai jamais, je ne sais pas du tout ce que je vais écrire. J'avais pas l'intention d'écrire sur Billy, par exemple, au départ, pas du tout.
Ah oui, d'accord.
Non, pas du tout. J'étais tombé, je m'intéressais aux États-Unis pour les raisons que je disais au départ.
De la structure invisible.
Voilà, j'essayais de comprendre des choses, etc. Donc, je lisais des choses sur la frontière, etc. Et je suis tombé sur la guerre du comté de Lincoln. Alors, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça, la guerre du comté de Lincoln? Parce que le nom, vraiment, quand on écrit, on est sensible à des choses qui, pour les historiens ou d'autres, pourraient paraître un peu des détails. Bon. Mais on est sensible aux mots, aux termes. Là, c'est une expression que je trouvais ridicule. Je me suis dit, mais comment il peut y avoir une guerre associée à un nom qui est un bled que un je ne connais pas. Donc, je compare ça, je crois, dans le livre, à la guerre de Prugny en Sologne, ce qui, du coup, pour les Français, évidemment, est un peu ridicule, alors qu'on peut s'imaginer, quand on ne connaît pas la guerre du comté de Lincoln, que c'est une chose fantastique qu'on ignore. Bon. Ouais. Mais ce n'est pas une chose fantastique qu'on ignore, c'est véritablement une expression bizarrement formée, puisque c'est au fond quelques dizaines de morts, ce n'est pas très spectaculaire. Par contre, c'est des milliers et des milliers d'hectares qui sont en jeu. Donc, de ce point de vue-là, si on veut, c'est, c'est une guerre. Donc, c'est l'expression qui m'a attiré. Et ce qui m'a surpris et donné envie d'écrire, d'abord, c'est l'expression. Et c'est de rencontrer aussitôt, en m'y intéressant, Billy the Kid. C'est-à-dire de m'apercevoir que cette guerre bizarre, enfin, cet affrontement, ces fusillades, puisque c'est plutôt ça, ces fusils, cette série de fusillades qui a lieu dans un endroit paumé du Nouveau-Mexique et qu'on appelle le comté de Lincoln étrangement, c'est-à-dire avec cette disproportion entre le mot « guerre » qui est énorme et le comté qui est tout petit et inconnu, eh bien, avait pour protagoniste principal la légende, en fait, du Kid que là, tout le monde connaît ou croit connaître. Ouais. Donc, c'est cette espèce de double disproportion, la première dans le nom et la seconde entre un truc inconnu et Billy. Et puis, ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, avec d'autres choses, avec la photo qui est en couverture de Jesse Evans, qui m'avait attiré dans un livre par le degré d'insolence extrêmement grand qu'on y trouve. Ouais, une irrévérence totale. Cette jeune femme qui tient le pistolet, qui nous regarde avec un petit sourire, et Jesse Evans qui est en arrière un petit peu avec une morgue.
Rien à foutre de votre jugement, quoi.
C'est ça. Vraiment, c'est même peut-être un peu au-delà. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire, d'ailleurs, ce chapitre qui est un des premiers, celui que vous citiez sur Jesse Evans qui va finalement flinguer tout le monde. C'est-à-dire que cette photo m'a aussitôt donné envie d'écrire. Elle était comme du bois dans le feu ou de la paille. Enfin, il fallait...
Mais parce qu'elle nous interpelle. La photo a un pouvoir d'interpellation c'est avec le regard qui est très...
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, donc elle m'a attiré, donc je me suis mis à écrire, et en écrivant, je me suis dit, non seulement elle nous interpelle, mais elle est même faite pour ça, sans doute sans qu'il le sache. C'est-à-dire qu'il y a différents types de portraits. Quand on fait un portrait, en général, on regarde, évidemment, donc on est en relation avec des gens qu'on ne verra jamais et qui verront le portrait, mais dans ce portrait-là, non seulement il nous regarde, mais il s'adresse à nous. C'est-à-dire qu'il y a une forme de mise en scène qui est très naturelle, mais qui est une mise en scène néanmoins, où cette jeune femme tient le revolver, nous regarde et sourit, où lui se tient de façon un peu plus négligente, et il y a une sorte de tendresse entre eux, et il faut bien dire qu'ils ont l'air de s'adresser à nous et de nous dire « Vous autres, les honnêtes gens, on vous emmerde. » Vraiment, donc il y a une insolence, une irrévérence magistrale, on peut dire, qui est très rare et qui ne peut pas être le fait d'un individu. Elle est le fait d'une époque, d'une position sociale. Mmh. Elle ne peut pas être produite par une personne toute seule, cette irrévérence. Ça n'aurait aucun sens. Ce serait un fou, alors. Ou ce serait d'ailleurs ridicule. Ce serait même une je ne sais pas comment dire, une forme de frime, enfin. Bon. Or là, non, il y a un grand naturel, en fait, dans cette photo. Elle fait songer à ces photos de mai 68. C'est les seules que je vois, les plus contemporaines, où des jeunes gens, dans le 6e arrondissement de Paris, s'approchent des CRS et les regardent, l'air de dire, alors, vieux con ou sale con, enfin bon, c'est des photos très... et qui ne sont pas du tout des photos pénibles, au contraire. Ce sont des photos où une grande liberté, très désinvolte, injurieuse, il faut bien le dire, s'exprime. Ouais. Et là, il y a ça. Donc, ça m'a aussitôt... c'est l'époque. Je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui se passait à cette époque qui pouvait permettre, finalement, l'expression d'une telle liberté? Alors, le dernier point, je dirais, qui est lié plus profondément à votre question, c'est qu'au fond, sur le tremblement, c'est que... pour écrire là-dessus, alors il y a une dimension, si on veut, historique, de recherche et d'enquête, etc., indéniablement, mais il y a aussi une autre dimension qui est que quand on écrit, c'est vrai toujours, mais c'est encore plus vrai, je crois, dans ce cas-là, on est toujours obligé de congédier tous les livres. On peut bien en avoir lu 1000, on passe sa vie à lire d'ailleurs quand on écrit, mais il y a un moment où on écrit et tous les autres livres sont abolis. C'est-à-dire, ils n'ont plus rien de valeur. C'est pas seulement qu'ils sont écartés parce qu'on devrait... ne plus y penser. C'est qu'au fond, on doit les rejeter, comme s'ils avaient tous, y compris les meilleurs, jusqu'à présent, d'une certaine manière, rien dit. C'est ça, écrire toujours.
C'est ça qui justifie le geste d'écrire celui-là, c'est parce que jusqu'à présent, que je dois dire maintenant n'a pas été dit.
Ben, c'est vrai en général, c'est-à-dire après, bon, ben, le livre, c'est le résultat, etc. Mais quand on écrit, je crois, on congédie tous les livres, on les rejette au loin. On ne peut pas écrire en présence des autres livres. Ça serait d'ailleurs intimidant qu'une galerie d'ancêtres. Enfin, et puis ça n'aurait aucun sens. Si on écrivait de cette façon, on n'écrirait que des choses qu'on sait déjà.
Tout à fait.
Or, à un moment, il y a une forme d'ignorance. Alors, si elle est simplement accrue avec ce livre, c'est parce que, en dernière instance, sur ces gens-là, en fait, on ne sait rien.
Ouais.
C'est-à-dire que, donc, une fois que j'ai eu rencontré Billy à travers la photo, la guerre du comté de Lincoln, et que j'ai commencé à m'intéresser à lui, à me dire, tiens, bon, je l'ai rencontré plusieurs fois, pourquoi, qui est-ce, qu'est-ce qui se passe, bon, voilà. C'est comme s'il m'avait été d'abord livré un personnage tout fait, plein de qualités diverses et variées, de faits, d'aventures, etc., de péripéties. On peut en écrire des pages, en faire 50 films. Enfin. Mais plus je m'approchais, plus j'essayais de... Alors d'abord sur sa vie d'avant la légende, alors là, on ne trouve rien, tout s'évanouit. Mais même quand je m'approchais de la légende elle-même et de certaines scènes mythiques, comme son premier crime et la bataille de Blazers Mill, eh bien tout s'évanouissait au fond. Tout ce qui était affirmé, répété, sans cesse et rabâché par la légende s'avérait... Ou alors, devoir être interprété presque en sens contraire, comme son premier crime, comme si la légende avait finalement fait ce que font tous les préjugés bourgeois, c'est-à-dire lu le premier crime de Billy the Kid à l'aune de son casier judiciaire, si je puis dire. C'est-à-dire, voilà un criminel endurci, et c'est son premier crime, sauf qu'à son premier crime,
ça n'est pas
un criminel endurci. C'était intéressant d'essayer de... C'est là qu'il y a une opération de tout laisser, si je puis dire, comme se laver les yeux, je ne sais pas.
Ouais.
Et puis, la bataille de Blazers Mill, qui est un épisode où, évidemment, la tendance des historiens consiste, et elle est tout à fait légitime, on la comprend, c'est celle de la justice, d'ailleurs. C'est un faisceau d'indices, donc on regarde les différents témoignages, on essaie de les recouper, de voir ce qui est plus possible, ce qui se contredit, etc. Mais si on fait ça, avec cette bataille, alors, comment dire, écrire, c'est aussi prendre en charge ce qu'on écrit quand ce sont des faits. Ça veut dire qu'au moment où on les écrit soi, c'est plus des faits dans d'autres livres, c'est dans votre écriture qu'ils sont pris. Et là, quand il peut se passer des effets de je sais pas comment dire, de dissonance. Car il y a des choses qui ne vont pas, en fait. L'écriture n'arrive pas à les prendre en charge. Et donc, c'est que ça ne va pas. Et là, dans cette scène, je me retrouvais pris dans une sorte de labyrinthe d'événements inconciliables. J'avais beau essayer de trouver ce qui était le plus possible. Et donc, petit à petit, c'est dégagé de l'écriture tout autre chose. C'est-à-dire que j'ai retiré Billy. Et je me suis aperçu que quand on le retirait, ben, il se passait les mêmes événements. Il y avait le même nombre de morts et le même nombre de blessés. Si bien que quand un personnage qui est réputé être le personnage central d'une aventure peut en être retiré, c'est qu'il y a un problème.
Oui, d'accord. Alors, ce que le travail d'enquête vous a permis notamment...
Juste un point, pardonnez-moi.
Je vous en prie.
Ce à quoi ça me fait songer, c'est qu'au fond, loin de le retirer de l'histoire, ça continue à le mettre au premier plan, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui, mais alors si on l'enlève de la bataille de Blazers Mill, c'est la vraie bataille, il n'y est plus, ou il n'y a plus d'important.
Ouais.
Mais au fond, le fait qu'on puisse le retirer et qu'on l'ait mis au premier plan veut dire quelque chose sur lui, sur sa solitude, sur son peu d'importance, en fait. Et le déséquilibre entre le mythe et cet effacement fantôme a quelque chose d'assez bouleversant.
Ouais. Alors, comme vous avez évoqué à la fois votre travail d'enquêteur dans les archives pour reconstituer tous les faits, je voudrais que ceux qui nous écoutent puissent se figurer ce que vous reconstituez, qui n'est pas seulement l'histoire de Billy the Kid et de sa bande, enfin ses bandes en fait, parce qu'il en a, il a plusieurs collectifs successifs. En fait, ce que vous allez établir dans votre travail d'enquêteur, c'est le rôle que jouent les notables de faible vertu qui en fait environnent, conditionnent, organisent, déterminent un certain nombre de ces bagarres. Parce que là, quand vous décrivez les fusillades de tel endroit ou tel endroit, on a l'impression qu'on est à nouveau dans un western avec des cow-boys plus ou moins solitaires ou en bande. légendes qui s'entretuent en réalité. Ce que votre écriture permet de faire monter au jour, et c'est absolument passionnant précisément, c'est les structures capitalistes dans lesquelles ces protagonistes sont piégés. Vous écrivez par exemple, en réalité, Jesse Evans, donc un chef de bande dans laquelle Billy sera un moment impliqué. En réalité, Jesse Evans et sa liberté apparente, son ivresse, ses embardées fabuleuses sont la conséquence d'une délégation de pouvoir que le gouvernement des États-Unis a implicitement consenti. Dans sa phase terminale, la colonisation du continent, de loin en loin encadrée par l'armée, a été abandonnée à de petits délinquants, sous-traités à des hordes de va-nu-pieds, de vagabonds et de voleurs. Donc je voudrais maintenant qu'on aborde cette dimension-là qui fait apparaître que Billy et ses potes sont au fond l'écume de la vague coloniale. C'est vraiment la frontière à cet endroit où le pouvoir central étend ses tentacules. Vous avez cette métaphore à un moment de parler des tentacules à la va-vite. Et en fait, ces petits voyous-là qui nous regardent de haut et qui se croient tout maîtriser, effectivement, ils ne sont que la pointe avancée d'un système colonial, prédateur, capitaliste, en train de s'étendre.
Oui, alors le premier point, là, que vous citiez, c'est le fait que ce sont des saisonniers du crime, si je puis dire. C'est-à-dire que si on veut les comprendre, parce que souvent, ceux qui tentent de retracer leur histoire se demandent pendant des pages et des pages pourquoi Billy et Jesse Evans se sont finalement affrontés et essaient de trouver des justifications morales à tout ça. C'est parfaitement en fait ingénu. C'est-à-dire, ils sont comme les saisonniers qui arrivent en bande et qui disent « Ah bon, j'ai dû travailler à la ferme là-bas, bon, on se retrouvera au village » et puis voilà, ils se dispersent. Et puis après, ils se trouvent pris dans des conflits qui, comme vous le dites très bien, les dépassent tout à fait. Donc ça, c'est le premier point. L'autre, c'est que alors comment dire, m'est apparu en fait un parallèle avec une chose dont j'avais déjà parlé dans un livre précédent, Tristesse de la Terre, parlant des massacres d'Indiens, c'est cette espèce de difficulté que nous avons à pouvoir nous faire une opinion à la fois sérieuse et documentée sur ce qu'ont été les trahisons régulières des traités avec les Indiens. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes personnes qui systématiquement signent les traités, puis les trahissent, puis en citent un autre. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est que cette pluie de traités, tous trahis de manière un petit peu différente et similaire, qui se succèdent et qui aboutissent finalement donc au massacre des Indiens et à leur relégation dans des réserves. En fait, c'est la même chose qui se passe ici. C'est comme si la colonisation, à un moment, lorsqu'un gouvernement, après la centrale, lâche la bride, se développait comme naturellement, en fait. C'est-à-dire, c'est ça, cette délégation. Il suffit de laisser faire. Vous pouvez passer des traités avec les Indiens. Si le monde continue à être ce qu'il est, vous savez fort bien que d'autres cow-boys, d'autres propriétaires terriens vont mordre sur leurs terres, créer des conflits, etc. Et que dans 5 ans, 10 ans, il va y avoir une nouvelle guerre indienne, vous pourrez massacrer de nouveau quelques Indiens, rompre le traité, etc. Donc en réalité, c'est une situation presque. Enfin, c'est une question presque de physique sociale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de l'histoire coloniale, il y a déjà une présence évidemment militaire dans toutes ces zones, qui sont adossées à des camps en fait militaires, mais les militaires sortent très peu à la fin de la guerre du comté de Lincoln. Ils vont sortir un petit moment pour rétablir l'ordre, mais au fond, leur rôle est périphérique, sans importance. Ce qui compte, c'est le déploiement que le pouvoir, auquel le pouvoir laisse toute liberté, des propriétaires terriens qui se constituent des bandes de mercenaires, s'affrontent, et c'est ça qu'on appelle le western. C'est-à-dire que, alors, le premier point, c'est que le western met en scène d'une manière à la fois héroïque, avec le côté as de la gâchette et la dimension morale, le duel, l'affrontement pour l'honneur, qui sont évidemment de la mamelotterie, mais doublement d'ailleurs. C'est-à-dire que dans toute cette histoire, je n'ai jamais trouvé le moindre as de la gâchette. C'est-à-dire que la bataille de Blazers Mill, par exemple, c'est une bataille à bout portant que je raconte à coup de chevrotine.
Ils ne sont donc, même pas des tireurs d'élite.
Non. Ils tirent sans doute bien. C'est-à-dire sûrement que Billy est capable. Mais l'espèce de mise en scène typique du western du type qui a 40 mètres, tire sur des bouteilles, c'est pour rire. Bon, les gamins font peut-être ça, mais en réalité, quand on se tue dans des combats, c'est pas comme ça. On se tourne pas autour comme dans les films de Sergio Leone. En réalité, on est à bout portant et c'est celui qui tire le premier, là, avec Buckshot, qui lui-même donc porte un surnom qui veut dire coup de chevrotine, vous voyez, et non pas as de la gâchette. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'on le tue à bout portant d'un coup de chevrotine, lui-même en tire un qui tue Dick Brewer, qui était planqué derrière un tas de bûches, et puis c'est fini. Il y a un autre blessé, le type s'écarte, on le laisse tranquille, il rentre dans une grange, il a toutes les tripes sorties et puis il meurt au bout de quelques heures.
Ouais, bon. Ouais.
Donc c'est ça la bataille. Donc on voit bien, voilà, c'est pas du tout un western tel qu'on a l'habitude d'en voir, mais c'est pas non plus une bataille comme c'est appelé. C'est une bataille, si c'est ça une bataille. Alors je sais pas ce qu'était la bataille de la Somme ou la bataille d'Austerlitz.
Ouais, ouais, ouais.
Donc ça c'est le premier point. Et puis le rapport moral, donc qui est le plus important, est vraiment un cache-sexe, c'est-à-dire il n'y a aucune coordonnée morale dans cette histoire de la bataille de Blazers Mill. Ils arrivent à 12 ou 13, je ne sais plus, pour se battre avec un type qui fait partie de la bande adverse, qui tue, qu'ils abattent. Si ouais. ça, c'est un duel, oh mon grand Dieu, ouais. alors bon, ces gens-là discutent un peu d'abord derrière la grange, puisque l'un d'entre eux, Georges Coe, est un peu copain avec Bouchotte. Enfin, vous voyez, mais c'est des histoires de camaraderie, de saisonniers, qui sont prises, au fond, dans un conflit qui les dépasse très largement. Et alors, ce conflit-là, enfin, ce qui m'est arrivé, c'est que, comment dire, j'avais pas spécialement l'idée de le raconter, puisque j'en ignorais l'histoire en commençant à écrire le livre. J'ai commencé par cette photo, cette insolence qui m'attirait, et puis de cette photo, d'autres. Je me suis intéressé à Billy, du coup, que j'ai rencontré à travers Jesse Evans, puisqu'il était un de ses compagnons de route au départ, et ensuite il était son vis-à-vis, si je puis dire, donc ouais. ils se sont affrontés. Donc à Billy, et là je me suis rendu compte que ça collait pas, que la légende, au contraire, avait des trous partout. Et que plus on la regardait, plus tout ça devenait comme du sable. Enfin et donc, j'ai essayé de m'approcher de Billy. Je me suis rendu compte, comme je vous le disais juste avant, que tout à coup, il n'en restait presque plus rien. Alors, à un moment, je me suis même inquiété, puisque, comment dire, je n'ai jamais de projet. Je ne me dis jamais, je vais me faire un livre, là, ouais. dans un an, il sera fini. Non, j'en ai toujours plusieurs en cours. Donc,
d'accord.
à un moment, bon, je me suis dit, bon, s'il n'y a personne, c'est bizarre, un livre sans, oui. sans protagoniste du tout. Alors, je l'ai laissé de côté. Puis, au bout de, je ne sais plus, quelques mois, un an, je l'ai relu. Et là, au contraire, en fait, j'ai été ému par son absence, que je disais tout à l'heure, le fait de l'effacer, ouais. en fait, ne l'efface pas totalement. Ouais. Ça veut dire simplement que son rôle est second, que c'est un gamin et que c'est l'histoire et la suite qui ouais. en ont fait justement et, ouais. un mythe. Il a donc été dépouillé deux fois, si
oui,
je puis
dire. Et que tous les hommes de sa condition sont voués à l'effacement aussi.
C'est ça.
Ça raconte à quel point, voilà, petit, démuni, orphelin, de toute façon, il était voué à disparaître même des histoires dont il a été le protagoniste.
Absolument. Louis Guillou, écrit quelque part, mais je vais mal le citer, mais c'est à peu près ça, il dit qu'on nous dépouille toujours deux fois, même de notre mort, en quelque
ouais,
sorte.
Ouais, ouais,
et,
ouais, ouais.
et c'est ce qui est arrivé à Billy, il s'est trouvé ouais. dépouillé de sa mort ouais. par son assassin qui a écrit son histoire, qui est devenue, si je puis dire, la matrice...
Pat Garrett, c'est ça,
voilà,
c'est Pat Garrett, son assassin. Ouais. Il y a d'ailleurs le western de Peckinpah, je crois.
Oui, tout à fait, oui, bah,
qui raconte Pat Garrett contre Billy the Kid.
Oui, tout à fait.
Bon, mais avec toutes les distorsions que vous avez évoquées tout à l'heure sur ce qu'on voit dans les westerns, à
oui.
part les très beaux paysages. J'ai eu le sentiment oui. que les beaux paysages des westerns, et notamment de Peckinpah, éventuellement alimentaient votre écriture. Je ne sais pas quel rapport votre écriture a pu avoir avec les westerns. Vous les avez mis de côté, genre ça raconte vraiment n'importe quoi, c'est une torsion totale, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à attraper dans ces westerns consacré à Billy the Kid et à son environnement.
Alors, je dirais que les westerns, pour moi, c'est un petit peu comme les films sur la guerre du Vietnam. C'est-à-dire, évidemment, il y en a de meilleurs que d'autres. Chimino, dans les deux cas, a fait deux films qui se décalent un petit peu, disons, du mythe. Mais malgré tout, on y trouve toujours des éléments qui viennent, au contraire, obérer ça, qui viennent... problématique. C'est-à-dire, dans le western de Chimino, comme dans Suite Peckinpah, il y a une surenchère de violence.
Ouais.
On tire, mais alors, on tire 40 balles.
Ouais, ouais.
Et cette espèce de violence devient une forme du lyrisme, en fait, devient elle aussi une forme du mythe. En réalité, ça se passe jamais comme ça. Quand on assiste à une bagarre ou à un moment violent, la plupart du temps, ça dure quelques instants, c'est maladroit, une personne tombe, se griffe. Enfin, c'est pas du tout cette espèce de surenchère qui dure, chez Peckinpah, quelquefois 10 minutes, on mitraille les gens pendant 10 minutes. Mais c'est le cas aussi dans le film de Chimino, dans La Porte du Paradis. À la fin, il y a toute une séquence où, dans une petite cabane, la cabane se fait carrément trouer.
Ouais, on voit le jour à travers.
Voilà. Ouais. Donc, disons, on peut dire que c'est une scène de cinéma, oui, peut-être, mais si la justification, qui est en partie celle de ces films, de venir, disons, contredire la légende fordienne, se termine comme ça, ça pose tout de même un problème. Ouais. Et puis, dans les films sur la guerre du Vietnam, c'est pareil. C'est-à-dire que, bien sûr, Chimino raconte le départ de soldats qui sont des prolétaires. Ça change un petit peu, disons, d'Apocalypse Now, pour un truc que tout le monde connaît. Donc, c'est un film, de ce point de vue-là, plus social, qui s'enracine dans la réalité américaine. Mais les Vietnamiens, on ne les voit pas non plus. C'est-à-dire, finalement, c'est pris dans la même histoire qui veut nous faire pleurer sur le soldat américain. Bon. Ouais. Alors, et puis qui, surtout, est comme une histoire aveugle, en fait. Il y a un moment où il est quand même triste que les films et les livres deviennent des œillères.
Tout cas, borgne, on ne voit qu'un bout de l'histoire et jamais autrui, cet autrui à qui on fait la guerre, par exemple.
C'est-à-dire que ça signifie, dans ce cas-là, qu'en dépit de leur qualité esthétique ou même politique parfois, ils se trouvent appartenir, malgré tout, à une sorte de courant culturel qui les dépasse, au fond, très largement, et dont on peut dire même qu'il est, en l'occurrence, de la propagande, puisque, alors pour ce qui concerne le western, il sert tout de même à justifier d'abord des massacres, et ensuite, là, en l'occurrence, l'appropriation de terres, qui sont plus seulement celles des Indiens à ce moment-là, mais celles aussi des squatteurs, lorsque dénonce un peu Chimino, voilà, mais ça reste malgré tout pris, je trouve, dans un... Alors, il y a les paysages, pardon, que vous évoquez.
Ah oui, et que je trouve saisi par votre texte aussi. Je me suis demandé si vous étiez vous-même allé, comme vous êtes allé aux États-Unis pour votre documentation, entre autres, est-ce que vous avez vous-même absorbé ces paysages? Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui, les States? Et donc, quand on y va, on peut être devant ces montagnes déchirées sur fond de ciel crépusculaire. Est-ce que c'est encore ça, les paysages là-bas? Ou est-ce que c'est le cinéma? Moi, j'ai vu ces images-là. Ce que je lisais dans vos pages, je les ai vus chez Peckinpah. Mais je ne sais
Alors,
c'est encore comme ça.
Il y a un film de Chloé Zhao qui m'a fait beaucoup réfléchir au paysage américain et qui m'a fait réfléchir à des choses qui s'étaient imprimées en moi, mais dont j'avais pas, auxquelles je n'avais pas pensé, enfin, qui étaient restées là, l'état latent, en quelque sorte, d'un voyage, justement, aux États-Unis. C'est un film qui s'appelle Nomadland, et où ce sont Alors, la plupart des gens ne sont pas des comédiens, à part la comédienne centrale, qui sont des gens qui sont errants, au fond, qui travaillent chez Amazon tantôt, dans un camping après, ailleurs, et qui logent dans des caravanes, et qui se sont construits à partir de bribes d'idéologie, en partie religieuse, en partie la constitution américaine, enfin, une forme idéologique qui leur permette à la fois de survivre et peut-être en partie de s'émanciper d'une vie très dure, en fait, et très, comment dire, à la fois itinérante, enfin bon. Il y a notamment une scène, à un moment, une des femmes part, je crois, dans un EHPAD. Enfin, à la fin, elle peut plus. Donc, et elle distribue une casserole, enfin, tout ce qu'elle a. Elle a rien, quoi, dans sa caravane. Enfin, c'est une scène tout à fait bouleversante. Et alors, je m'étais... En voyant ce film, ce qui m'a le plus frappé, peut-être, c'est... Je me suis dit, à un moment, ces paysages américains, dont tout le monde nous dit, ah, la dilatation formidable, en fait, c'est des paysages invivables. C'est-à-dire, ça n'est vivable, oui, quand on est une tribu nomade et qu'on s'y promène largement, ça doit avoir sa beauté comme tout a sa beauté. Hein. Mais quand on est tout à coup, au contraire, des envahisseurs sédentaires, eh bien, ou alors qu'on vit dans des caravanes et qu'on doit aller se brancher à un générateur, en réalité, ce sont des paysages arides, terriblement inhospitaliers. Et tout à coup, ce qui m'est apparu, on n'appelle pas pour rien la vallée de la mort, elle porte bien son nom, il y fait trop chaud, on ne peut pas s'y établir. Et tous les lieux des westerns fordiens, notamment... le monument de Valais, tout ça, sont en fait des lieux rigoureusement inhabitables. Je suis d'ailleurs même pas sûr que les Indiens aient jamais vécu là-bas. Ils veulent y passer. On ne peut pas y vivre. Il n'y a pas de bêtes, il n'y a rien. Donc, finalement, c'est ça aussi une colonie. C'est-à-dire que ces paysages ont leur force de lumière, de sable, etc. Mais ce que j'essayais de toucher un petit peu, comme ça, dans le livre, par moments, c'est... et qui avait une relation avec la solitude de Billy, c'est que ça vient l'accroître. C'est-à-dire qu'avoir 17 ans et être seul dans des paysages à ce point inhospitaliers, où il faut parcourir de grandes distances pour rencontrer d'autres hommes, et où donc le danger, quand on en rencontre, est quand même très grand, eh bien, ce n'est pas du tout ce que, justement, à certains égards, la poésie du western veut là où elle voudrait nous emporter, en tout cas pour une part, c'est-à-dire la beauté du monde, etc. C'est vrai, mais il n'y a pas que la beauté du monde, elle est là, évidemment. La lumière, c'est beau, le sable aussi, la respiration du cheval, etc. Mais enfin, tout ça se trouve être pris avant tout dans une inhospitalité de base qui est, je pense, le retournement de ces terres d'un usage qui était celui des nomades à un usage sédentaire, à un usage d'exploitation qui change leur nature, qui change le rapport qu'on a à elle. Et le point, alors qu'il y ait à des voyages aux États-Unis qui m'a frappé, c'est que, évidemment, m'intéressant aux commanditaires, au fond, à la fois, enfin, surtout au patron de la bande adverse, celle oui. de Billy, puisque le patron de Billy se fait abattre dès le début, c'est ce qui rend Billy d'ailleurs en quelque sorte sympathique, si je puis dire, c'est qu'il se retrouve totalement seul, et donc il s'affronte à la bande adverse dans une très grande précarité, lui et quelques autres. Ça en fait des réfractaires, d'une certaine manière, ce qui les rend sympathiques.
Des rebelles.
Voilà, ouais, ce qui est sans doute l'un des points d'accroche du mythe, d'ailleurs, bien l'un sûr. Des points d'accroche concrets et réels, si on veut. Bon. Il y a quelque chose de séduisant dans leur position rigoureusement asymétrique. Bon. Mais, du coup, je me suis intéressé, évidemment, au patron. Donc, alors, ce qui excède très largement le western, même, finalement, les westerns plus sociaux et dans lesquels les rapports à la fois d'argent et de terre jouent un rôle, s'intéressent assez peu à cet aspect. C'est-à-dire que, dans le Chimino, pour autant que je me souvienne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, mais on passe où de l'Ouest, où on est avec ces migrants qui arrivent, à je ne sais plus quelle université, Harvard, etc., où l'un des protagonistes danse avec une jeune femme sous un arbre centenaire. Bon, c'est un grand écart lyrique, beau cinématographiquement, c'est bien filmé, magnifique, bon, les couleurs sont très bien étalonnées, mais... Bon, on est quand même très loin, en tout cas, de la réalité sociale dont on prétend que ce film serait quand même, là, cette fois-ci, aurait une fidélité, en fait, à elle, beaucoup plus grande. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de sortir de ce périmètre. Et c'est, au fond, ce qu'a toujours fait la littérature. Je racontais que quand Balzac sortait le soir, après avoir bu 40 cafés, et allait dans les salons de telle ou telle duchesse, rencontrait à la fois des écrivains, des hommes d'affaires, etc., c'était pour lui une manière de collecter tout un tas de choses, et puis de sentir, sans doute, palpiter ce monde-là, de savoir comment ça se passait. Et on peut dire que tout légitimiste qu'il était, eh bien, il ne le gardait pas dans sa poche, ce qu'il avait vu. Il l'a partagé, et c'était ça, écrire. C'est-à-dire écrire, c'était outrepasser, trouver dans l'écriture une manière de parler de ce monde que les autres ignoraient, au fond, et d'en dire quelque chose. Et là, donc, j'essaie de sortir de ce périmètre, disons, du western, et de raconter... tout d'abord, on reste dans le comté de Lincoln, puisque tout ça appartient, en fait, à une petite entreprise qui s'appelle The House, qui porte un nom... presque mafieux, la maison, et qui est possédée par deux hommes qui, au fond, ont le monopole de l'économie du comté. C'est-à-dire, si vous voulez acheter quelque chose, ben, il faut l'acheter là-bas. Si vous voulez des haricots, une selle, je sais pas, une couverture, vous l'achetez là. Et si vous voulez vendre quelque chose, une vache, un sac de grains, bon, ben, c'est pareil, il faut le vendre là. Donc, ils ont un monopole total dans les deux sens. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce que j'essaie de raconter dans le livre, c'est que c'est à ce moment-là que se constitue la science économique libérale qui, elle, détermine que le libéralisme économique, c'est la concurrence, etc. Or là, ce à quoi on assiste concrètement dans les faits, je dirais à la pointe même de ce qu'elle est, à l'endroit où elle est en train de se développer, c'est-à-dire dans l'Ouest américain, eh bien, c'est tout le contraire.
C'est l'assassinat de la concurrence pure et simple, en fait.
Puisque Tunstall se fait tuer dès le début,
ouvrir une boutique concurrente et il va se faire désinguer. Voilà. C'est à la suite de cet assassinat que Billy the Kid va se lancer...
C'est que la guerre du comté de Lincoln n'est pas du tout un affrontement pour rétablir la concurrence, au contraire le monopole qui veut se maintenir et même au contraire même se consolider. Et alors, je me suis dit, cette maison, elle ne peut pas opérer seule, au fond, donc j'ai essayé de regarder. Et en fait, évidemment, elle n'opérait pas seule, elle était hypothéquée, en fait, et celui qui détenait cette hypothèque est un avocat de Santa Fe, Thomas Benton Catron, qui donc, en fait, avait tout pouvoir sur elle et percevait sa dîme et a très largement en fait organisé la guerre du comté de Lincoln défaveur de Tunstall. On peut donc dire que cette guerre, si on veut la comprendre, on ne peut pas du tout la réduire au périmètre du western ou à ses coordonnées morales. On est obligé de regarder beaucoup plus loin depuis la capitale et c'est là en réalité qu'elle se passe. Le reste finalement, les coups de revolver des garçons vachés ont eu leur efficace, mais en réalité ils étaient morts tous depuis le début, si je puis dire.
Alors, vous parlez de Catron, donc cet avocat dont vous faites une description physique alors absolument délicieuse, hein, avec ses pieds pincés dans des escaffignons cirés. Là, je ne connaissais même pas le mot escaffignon, mais vous, il a une silhouette très aristocratique. Et de fait, vous faites apparaître la, la, la logique aristocratique de ce personnage et de, du système qu'il incarne. Hein. À propos de ce Catron, vous écrivez qu'il était parvenu à mettre la main sur de formidables étendues de terre. Depuis son cabinet d'avocat, il régentait un véritable royaume. Et le mot royaume, à mon avis, n'est pas du tout hasardeux, parce qu'en effet, on voit surgir une forme d'ancien régime dans cette organisation, non pas locale, parce qu'en fait, c'est comme ça partout où le capitalisme prend racine. Il reproduit, en fait, les conditions féodales où des grands seigneurs, ayant accumulé par des moyens tout à fait illégaux, suffisamment de puissance capitalistique, vont ensuite décider de la loi, de la propriété, de tout ce qui va s'organiser socialement. Et vous faites apparaître combien, sur cette structure au fond complètement féodale, on vient ensuite mettre le maquillage démocratique. On finit par faire des élections, comme vous dites, ça, les, vous écrivez, les élections blanchissent tout. Ah, mais c'est une opération de blanchiment au sens quasiment mafieux. Donc voilà, derrière le capitalisme, il y a cette illusion de démocratie qui est en train de s'organiser, qui n'est en fait que le nouvel habillage d'un ancien régime qui s'est donné de nouvelles formes un petit peu plus présentables à travers les élections. Mais derrière, en fait, c'est le dollar, le dollar, le dollar, le capital qui organise la totalité des rapports sociaux.
Oui, alors... À un moment, en écrivant le livre, j'ai eu cette impression, je pensais à cette scène dans Les Enfants du Paradis, très belle, où Frédéric Lemaître, sur scène, doit jouer une pièce de théâtre, mais elle est très mauvaise. Alors, il la joue un peu n'importe comment. Et à la fin de la pièce, il dit, il parle des coupables. Alors, je ne sais plus ce qu'il dit, quelque chose comme fatalité, etc., d'une manière très lyrique. Et tout à coup, il dit, mais les véritables coupables, les voilà. Et il se lève et il montre les auteurs, ceux qui ont écrit la pièce et qui sont dans les loges.
Ouais.
C'est une scène sublime et les auteurs se lèvent absolument courroucés. Ouais. Et au fond, il y a quelque chose de ce genre dans la littérature. Il faut essayer de les trouver et à un moment, il faut
les vrais coupables,
non pas le texte, etc. Mais enfin, qui l'a écrit ce texte ? Il y a bien quelqu'un qui en est l'auteur. Et d'une certaine manière, Thomas Benton Crabtree est l'auteur en grande partie de la guerre du comté de Lincoln. C'est-à-dire, si on s'en tient au coup de revolver, bon, on a des morts. Mais en réalité, vu sa puissance, la guerre est jouée depuis le début. Il va donc se débrouiller pour que l'homme de loi qui à un moment lui est défavorable soit évincé, que ce soit Brady et d'autres, un shérif, etc., qui soient mis en place et puissent faire en sorte que non seulement il ait la force de son côté, mais même la légalité. Et c'est comme ça qu'il finit par être victorieux. Et quand, en effet, il l'est... Alors, d'abord, il y a un autre point qui est important, c'est qu'on a tendance à imaginer le mot « pionnier » masque, dissimule une hétérogénéité, en fait, du groupe social. C'est-à-dire, on a l'impression que l'Amérique, c'est des gens relativement pauvres qui sont arrivés en masse, etc. Alors, c'est vrai de la grande majorité de ceux qui sont à ce moment-là sur la frontière. Hein. Billy, tout ça, viennent de familles très pauvres qui sont arrivées à Ellis Island par bateau entier, qui ensuite ont essaimé dans les grandes villes.
C'est une histoire de la migration, hein, derrière.
C'est ça, tout à fait. Et donc, ces gens-là très pauvres, pour une part, vont aussi dans l'Ouest, les autres restent dans les manufactures de l'Est, etc. Bon. Donc il y a ça. Mais il y a aussi d'autres individus dont on peut faire la généalogie très précisément.
Ouais.
C'est-à-dire, Billy, on peut remonter nulle part.
Ouais.
Comme je le disais au départ, si on essaie de savoir qui était sa mère, on y arrive à peu près, mais pas très bien. Sa famille maternelle, alors là, ça s'efface aussitôt. Son père, on ne le sait pas. Donc on perd tout. Enfin, il n'y a aucune.
Ouais,
tandis que si on s'intéresse à Thomas Benton Crabtree, à Chisholm, enfin, à ces grands propriétaires de l'Ouest américain, qu'on nous présente dans les films de Ford comme faisant partie de la cohorte des pionniers, en fait, on peut remonter jusqu'au XVIe siècle, en Angleterre, en Écosse.
Et on
en
les retrouve avec des, vous les décrivez avec une fraise autour du cou. On est là.
Élisabethaine, enfin, donc, en fait, ce sont des gens qui ont une généalogie très ancienne, etc., et qui sont venus, qui ne sont pas du tout venus au même étage, en tout cas, des bateaux que Charlie Chaplin dans Le Migrant. Ils ne sont pas en bas, on ne leur lance pas les pelures d'or, de fruits et de légumes. Ils sont à l'étage du dessus, en crinoline, etc. Et ensuite, ils arrivent dans le Nouveau Monde où ils s'installent. C'est tout à fait différent. Donc, en fait, il y a au moins, il y en a plus, évidemment, le monde social est complexe, là, dans l'Ouest, mais il y a au moins deux groupes sociaux très divers qui participent, en tout cas, aux mêmes événements. Et alors, d'autre part, après, alors, il y a cet événement, à un moment, je suis tombé sur cette élection de Pat Garrett, puisque les shérifs, la police, les forces de police sont en partie élus, donc aux États-Unis, et je m'attendais en fait à une élection totalement truquée. C'est-à-dire, je me suis dit bon, ben, ça va être bourrage d'urne, comme dans Ford, comme dans L'homme qui tua Liberty Valance, c'est-à-dire un détruant, tyrannisant et terrorisant la ville, vont imposer par la force et la brutalité une élection. Eh bien, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. En réalité, c'est une élection comme les autres, et c'est ça qui est troublant. Ouais. Et c'est ça qui permet de réfléchir à ce qu'est, au fond, et à ce que peut être, ou devrait être, ou est, enfin, avec toutes ces variantes, un processus électoral. C'est-à-dire, les procédures, c'est bien joli, c'est bien, c'est parfait de pouvoir voter, je préfère ça au fait de ne pas pouvoir. Mais ça peut aussi être une manière de dissimuler, comment dire, d'autres pouvoirs, d'autres jeux d'influence qui viennent, en gros, fausser la procédure.
Et toujours le pouvoir de l'argent qui va donner, évidemment, plus de visibilité et un côté plus attracteur à des candidatures soutenues par le capital.
C'est ça. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que les notables se sont, comme c'est tout de même souvent le cas pour des élections, réunis, ont discuté de qui serait le bon candidat, qu'ils n'ont pas choisi non plus n'importe quel candidat. Il se trouve que Pat Garrett est l'héritier en partie ruiné d'une famille du Sud ruinée par la guerre de sécession, donc d'une famille esclavagiste. C'est donc un homme d'autorité qui a commandé dans les plantations, qui a vu son père en tout cas le faire et sa famille, qui donc a un rapport à l'ordre et à la loi tout à fait particulier et à sa supériorité. Et c'est donc lui qui va être désigné, puisqu'étant ruiné, il a besoin de gagner sa vie, désigné par les notables pour incarner l'ordre et protéger finalement leur propriété. Et c'est donc vraiment des réunions entre Léa, Chisholm et les notables du coin, ceux de The House, qui vont désigner à ce moment-là, et pas à n'importe quel moment, c'est-à-dire lorsque précisément la bataille, la guerre du comté de Lincoln est gagnée, eh bien il faut figer les propriétés conquises définitivement.
Arrêter l'image maintenant.
C'est ça, il faut lui donner une légitimité. Et la plus grande légitimité, c'est évidemment le vote de tous. Et donc la campagne est organisée, une primaire est organisée, c'est lui qui est désigné, et à ce moment-là, on va faire le tour des maisons, des propriétés, rencontrer les braves habitants de Lincoln et recommander, enfin les notables vont recommander de voter pour Pat Garrett qui va donc être élu. Donc il y a d'abord cette élection et puis il y a ensuite celle de Thomas Benton Catron qui va lui-même être élu au Congrès, ses collègues qui ont participé aussi de très loin depuis Santa Fe ou Washington à la guerre du comté de Lincoln seront soit sénateurs, soit représentants au Congrès, soit gouverneurs.
Oui, c'est ça. Oui, il y a un cumul des positions, des places, hein, vous l'écrivez. Vous parlez d'un indémêlable magma, gouverneur, procureur, sénateur, avocat, homme d'affaires, propriétaire terrien. Au fond, toutes ces positions-là se superposent, se confondent dans un indémêlable magma, comme vous écrivez, ce que peut-être Lordon appelle l'état pital, pour désigner cette fusion entre l'état et le capital, à l'intérieur duquel, du coup, la démocratie, l'élection devient une sorte de spectacle un peu illusoire.
Oui, c'est-à-dire que au fond, si on veut reprendre la vieille question, la vieille nomenclature entre la démocratie formelle et la démocratie réelle, ce dont on est en train de faire l'expérience aujourd'hui, et ces Américains, au début, on peut dire, de leur histoire, ont fait aussitôt l'expérience brutale, c'est que non seulement les procédures ne suffisent pas, mais c'est surtout que quand les inégalités deviennent trop grandes, les procédures dysfonctionnent de plus en plus et à un moment totalement. C'est d'une certaine manière ce à quoi on assiste aujourd'hui aux États-Unis.
De Trump, c'est-à-dire Trump serait le symptôme de ce dysfonctionnement-là.
Bien sûr, sa richesse en est même l'indice. Il est très rare d'avoir un homme aussi riche à la tête d'un État. Je ne sais même pas si ça s'était d'une certaine manière déjà produit. Et donc, parce qu'on le sous-estime, vu que ses acolytes sont encore beaucoup plus riches. Mais vous voyez, posséder 5-10 milliards, c'est être avoir une fortune absolument colossale. Il est intéressant d'aller voir sur le site, par exemple, de ses entreprises et de voir le nombre de buildings qui sont possédés par lui ou qui portent son nom. C'est spectaculaire, c'est dans le monde entier. Il en possède plusieurs à New York. Il n'y a pas seulement la Trump Tower, mais quand on regarde le Trump Building, on est effaré de penser qu'un individu possède un des buildings en très vous voyez, ces très beaux buildings anciens de New York qui se trouvent à être à, je ne sais plus, 50 ou 100 mètres de Wall Street. Vous voyez, donc c'est ouais. tout ça. Bon, donc ce à quoi on assiste là, c'est le fait qu'à un degré d'inégalité très grand, qui est aujourd'hui le cas dans le monde, puisqu'il y a entre, disons, les masses populaires et les autres, un décollage qui se fait même dans, qui s'inscrit même dans la vie, puisque l'espérance de vie régresse pour les uns et continue à augmenter pour les autres. Enfin, il y en a plein d'indices, personne ne l'ignore en plus. Eh bien, à ce degré-là, les procédures électorales deviennent non plus seulement faussées, en fait, elles deviennent presque problématiques. Ça me rappelle, je parlais de Guillou tout à l'heure, dans un très beau livre de Guillou, qui s'appelle Okejo, dont j'avais fait la préface il y a quelques années. C'est un livre qui se passe après le débarquement. Guillou est interprète de l'armée américaine. Mmh. Et un Américain lui dit « Vous avez 48 partis. Nous, on en a deux. C'est beaucoup plus pratique. » Eh bien, s'il était aujourd'hui encore vivant, cet Américain lui dit « Vous en êtes vraiment sûr.
» Ouais. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette discussion passionnante, Éric Vuillard. Je vous recommande très vivement la lecture des Orphelins. C'est un livre absolument merveilleux. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler encore, mais il est ponctué de photos qui sont des excitateurs de la rêverie particulièrement efficaces. C'est un livre merveilleux. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écrit et d'être venu nous en parler. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Dans le texte. Salut.